puisse l'accuser de savourer une victoire trop facile sur Sibyl. Et c'est vrai. Il aurait pu facilement prendre un air compatissant, paternaliste. Oui, je te l'avais bien dit, avec ta mère, la catastrophe n'est jamais loin. Et s'il n'a pas savouré sa victoire, ce n'est pas qu'au fond de lui, il ne l'éprouvait pas. Non pas qu'il ne s'était pas surpris à en ressentir une forme de jouissance, quelque chose qu'il n'avait pas réussi à se dissimuler complètement. Il avait au moins réussi à le cacher aux autres. Mais à lui-même, non, pas tout à fait. Quelques minutes. Le temps d'un soupir, de se regarder dans la glace et de capter sur son visage le rictus de la lèvre, dans l'œil une lueur de cruauté, de victoire, et puis c'était tout. S'il n'a pas éclaté de rire et a pris le parti de la compassion, c'est parce qu'il n'y a aucun plaisir à jouir d'une partie qu'on gagne lorsque l'adversaire est si nettement humilié, défait, anéanti. Il ne voulait pas donner l'impression d'avoir eu raison sur toute la ligne, tant les faits parlaient d'eux-mêmes. Au fond, ce qui se passe le désole un peu. Il aurait préféré qu'elle le surprenne. Il avait presque cru qu'elle le pourrait, tant cette fois elle avait semblé décidée, organisée, d'une motivation et d'une énergie qu'il ne lui avait jamais connues, à part pour leur divorce. Il s'est dit, après tout, pour son fils, pour se donner l'impression de sauver son fils, Dieu sait ce qu'une femme comme elle est capable de faire. Puis non, on est qui on est. On peut se tordre dans tous les sens, on n'y peut rien de rien. On reste ce qu'on est, pensait-il. Rien à faire. Elle sera toujours la fille qui a failli mourir en Corse. La fille inconsolable d'un amour de jeunesse dont elle a toujours refusé de lui dire un mot, mais dont il connaissait l'existence par ses parents et quelques vieux amis qui lui avaient parlé d'un motard, un type avec qui elle avait vécu à Paris quand elle étudiait. Il n'avait jamais pu en parler avec elle, même quand il avait essayé d'évoquer ça, de lui demander comment elle pouvait encore supporter les Arabes. Elle se fermait, n'avait jamais voulu répondre. Les Arabes? Qu'est-ce qu'ils ont les Arabes? Je croyais, j'ai entendu dire, laisse-les où ils sont les Arabes. On peut parler de rien, je veux dire, d'avant. Moi je te parle bien de ma vie. Mais toi tu l'aimes, ta vie. Quand il débarque, Benoît a ruminé pendant tout le voyage. Il a fini par se dire que c'était un peu de sa faute. Parce qu'il n'aurait jamais dû accepter ce deal idiot et qu'il aurait dû imposer son choix, le pensionnat. Il aurait dû tout faire pour qu'elle renonce et pour ça, il aurait dû lui rappeler tous ses échecs. Lui rappeler le nombre de fois où il avait dû intervenir parce qu'il la retrouvait ivre morte dans des bars, avant la naissance de Samuel. Quand il la retrouvait assise pendant des heures, inerte, incapable de bouger à part pour reprendre une cigarette, le regard éteint, les yeux morts devant une télé qui continuait depuis des heures à lui brûler le cerveau. Et pourtant, il n'avait pas pu. Il avait accepté le deal. Mais c'est vrai que tout le monde avait trouvé que c'était bien. L'école, le juge, les éducateurs. Tout le monde avait approuvé et décidé d'accompagner le projet à distance, comme il disait. Et d'ailleurs, lui aussi avait dû s'avouer qu'il s'était dit, une pensée honteuse qu'il avait tout fait de se dissimuler comme un crime dont on essaie de nier l'existence en s'inventant des alibis alors qu'on se sait coupable, que finalement, leur départ pendant au moins 3 mois, c'était un peu de liberté pour lui, les week-ends et les vacances. Lui qui venait juste de rencontrer une jolie secrétaire avec qui il avait bien envie de passer du bon temps. Parce que, lorsqu'il venait le retrouver à Paris, il devait s'occuper de Samuel, essayer de faire des trucs ensemble, aller au cinéma, au restaurant, voir des matchs. Oui, ça, on le faisait, c'était les moments qu'ils aimaient tous les deux. Ils se faisaient livrer des pizzas et buvaient de la bière en racontant des conneries. Et alors Samuel pouvait croire qu'il avait tout compris à son père, qu'il était lui-même un homme, qu'il serait comme son père. Celui-ci n'avait pas besoin de dire qu'il avait quitté Sibyl, c'était obligé. C'était comme ça. Il parlait d'elle comme si Samuel et lui savaient à quelle créature à la fois fragile et autoritaire ils avaient affaire, saturés de sa présence, son regard consterné et désolé sur eux. Et avide aussi, d'une avidité qui faisait peur à Samuel. Oui, il se disait que parfois, quand elle le regardait, elle avait le regard d'une affamée qui se mord l'intérieur de la joue pour ne pas hurler sa faim. Et cette impression lui faisait peur, d'abord, et horreur ensuite, avant de lui laisser un vague sentiment de gêne, de honte, de pitié. Quand il arrive, Benoît conduit un 4x4 qu'il a loué en arrivant à Bishkek. Il est resté une nuit à l'hôtel, là-bas, pas question de s'attarder. Il ne vient pas en touriste, il ne vient pas en vacances. Il vient voir ce qui se passe. Il ne comprend pas ce que son fils lui a dit. La connexion